Salut tout le monde, bienvenue dans le bonus avec 3S de Yes, le podcast de Warrior. Parce qu'on a envie de partager encore plus de victoires face au sexisme, chaque mois on prend le temps de développer le parcours d'une Warrior qui nous inspire. On lui demande ses stratégies, ses tips, ses répliques qui font mouche et les soutiens qui l'aident à avancer. Avec toujours le même objectif, vous donner la patate pour mener vos combats quotidiens face au patriarcat. Au fil des mois, vous entendrez tour à tour les voix de mes acolytes, Elsa et Anaïs. Mais pour cette première, c'est moi, Margaïde, qui m'y colle. Et pour commencer, j'ai choisi d'aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les violences sexistes dans le sport. Ces dernières années, plusieurs scandales ont éclaté, aux États-Unis par exemple, au sein de la fédération de gymnastique, où un médecin profitait de son ascendant sur des jeunes filles pour les violer, ou plus proche de nous, en France, le 10 septembre dernier par exemple, une enquête pour viol et agression sexuelle par personne ayant autorité sur mineur a été ouverte par le parquet de Paris. Et cela fait suite à la dénonciation par l'ancienne patineuse artistique Sarah Bitbol de son entraîneur. Une vingtaine de coachs au total seraient impliqués dans cette affaire. Il y a quelque chose de pourri dans les fédérations sportive et ça me met en colère, car celles et ceux qui écoutent attentivement le podcast depuis les débuts savent que je suis une grande sportive. Je veux dire, j'adore le sport, mais pas que je suis une professionnelle qui collectionne les trophées, juste j'aime le sport. J'ai une affection particulière pour le roller derby, un sport collectif créé à l'origine par des femmes, pour les femmes, et qui s'est développé en promouvant des valeurs féministes d'inclusion, notamment envers les personnes transgenres ou intersexes. Mais malgré des grands discours, ce sport merveilleux n'est pas à l'abri des violences sexistes. Pour en parler, j'ai appelé Élise, mieux connue dans la communauté sous le nom de Gara Lagarce. Elle a joué dans les équipes de Rennes, de Montpellier ou de Paris. Elle a fait partie de l'équipe de France, elle a coaché plusieurs équipes masculines. Bref, Élise, c'est une sportive talentueuse et impliquée qui ne lâche jamais rien. Et pourtant, elle a été en 2013 victime d'une agression.
Alors, donc les faits remontent à assez loin parce qu'il m'a fallu du temps pour réaliser un peu ce qui m'était arrivé. Donc c'était en octobre 2013 où à l'époque j'étais coach de la sélection masculine qui allait partir à la Coupe du Monde. Donc il y avait 30 joueurs de roller derby, un coach, un arbitre dans l'encadrement et moi-même sur ce stage-là qui se déroulait à Orsay sur 2 jours. Et à la fin de la première journée, du coup, tous les vestiaires officiels ont été utilisés par les hommes vu qu'ils étaient en nombre. Et moi, j'avais un petit espace sans porte au fond d'un couloir. Dit comme ça, ça commence déjà très mal, cette histoire. qui était une douche désaffectée. Et donc, du coup, pour me changer. Ce qui me paraissait à peu près logique, parce que juste au niveau logistique, j'étais seule. Et eux, ils étaient entre 30 et 35, donc voilà. Et puis, donc à la fin de la journée du samedi, je passe devant. Donc, j'étais obligée de passer devant les vestiaires pour aller, moi, rejoindre mon petit espace. Je passe devant et je me fais interpeller par l'un des joueurs qui me propose de le rejoindre sous la douche et que je dois pas faire ma prude, hein, bien entendu. Je me souviens envoyer chier cette personne, lui dire de me laisser tranquille. Et puis, on avait précisé au début du week-end que, bien entendu, lors des moments où moi je me changeais, personne n'était autorisé à venir voir dans cet espace-là au fond du couloir. Hein, donc ça, ça avait été redit, qu'on me laissait tranquille. Et puis du coup, bon, bah je passe, je commence à me déshabiller, donc j'enlève mon t-shirt, je suis en brassière et en legging. Et au moment où j'enlève mon legging, si tu veux, je me rends compte que mon petit espace de douche désaffecté, sans lumière, n'a même plus la lumière du couloir. Comme n'importe quelle personne, quand il n'y a plus de lumière, tu regardes comment ça se fait. Et je me rends compte qu'il y a ce joueur-là, du coup, qui est nu, qui, du coup, parce qu'il fait 1m95 et qu'il ne doit pas être loin des 100 kg, ne me laisse aucun espace pour sortir, en fait. Hein. Il cache la lumière, donc il cache aussi la sortie. Et que moi, en fait, j'ai aucune position de défense possible, puisque si je veux me barrer, il faut que je le pousse, donc il faut que je le touche. Il est nu, voilà. Que si je me tourne pour pas voir, bah mine de rien, je suis quand même en slip avec le legging à mi-cuisse. Donc je lui présente mes fesses, mon dos, et je vois pas ce qui se passe, quoi. Donc du coup, j'ai que la position dans laquelle je suis qui... Alors, il y a les coachs en Inde qui ont cette méthode de défense qui est de ne plus bouger quand quelque chose arrive. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé. Je me suis figée et puis j'arrive quand même à verbaliser « Mais dégage, va-t'en, c'est bon, c'est pas drôle. » Et puis, bon, bah, lui, ça le fait bien rire, hein, parce que finalement, voir quelqu'un très mal à l'aise, qui n'a pas moyen de s'en sortir, être dans un principe de domination, ça avait l'air de vraiment lui plaire. Donc, je lui dis une fois, deux fois, de dégager, ce qu'il ne fait pas, et je finis par appeler nominativement un autre joueur. Donc, je dis « est-ce que tu peux m'aider ?» ou « Viens !» Enfin, ça, c'est... Voilà, et du coup, il y a ce mec-là, dont j'entends la voix qui se rapproche et qui dit « Non, mais c'est bon, allez, viens maintenant, t'es relou, laisse-la, quoi. » Et donc, ça fait énormément rire la personne dans l'embrasure de la porte, donc l'agresseur en question, qui se barre et se barre à poil, quoi. Enfin, se barre et la lumière revient. Bah, la première chose que je fais, c'est je remonte mon legging, je me suis pas changée, je mets mon jean par-dessus, je mets mon t-shirt, je prends toutes mes affaires à l'arrache dans mon sac et je me casse dehors, quoi.
Mais quand même, moi, ce que je note, c'est que quand même, t'as eu le réflexe d'appeler à l'aide, ce qui est déjà un premier moyen de défense et peut-être une première victoire déjà, enfin, d'avoir réussi à arrêter cette agression en tout cas.
Eh ben, ça, je le dois à ma meilleure amie, parce qu'on en avait parlé, alors, un mois avant, sur et si t'arrives une merde. Un jour et que, bah mine de rien, il y a des gens à côté mais que personne ne bouge. Qu'est-ce que tu fais pour faire réagir les gens ? Et en fait, elle avait lu un conseil qui était de viser vraiment quelqu'un pour que la personne se sente obligée, en fait, quelque part, et intimement concernée par la situation qui est en train de t'arriver, même si elle ne te connaît pas. Genre, ça peut être dans le RER, toi, avec le pull rouge, tu vas laisser faire ça ? Tu vois, enfin, voilà, un truc qui fait que les personnes ne puissent pas se mettre en dehors de la situation dont ils sont témoins en disant bah, « ça me concerne pas, quoi ». Ou « quelqu'un d'autre va bien réagir ». Parce qu'en fait, là, c'est pas quelqu'un qu'on appelle, c'est vraiment toi.
Alors, il faut savoir que l'agresseur de Élise est bien connu dans la communauté roller derby pour son comportement problématique, et notamment ses exhibitions sexuelles. Mais il est actif au sein du sport, il sait se rendre indispensable au sein de la Fédération Française de Roller, la FFRS, et en plein MeToo, il est même élu et devient le représentant du roller derby dans cette institution. On marche sur la tête, quoi. Mais alors que Élise et d'autres joueuses commencent à parler des agressions dont elles ont été victimes, le président de la FFRS les menace de porter plainte pour diffamation et pour harcèlement. Alors, elles préfèrent se taire, et on les comprend. L'agresseur de Élise, finalement, a fini par reconnaître les faits d'exhibition sexuelle et démissionne. Mais quelques mois plus tard, Élise apprend qu'il est à nouveau sélectionné pour faire partie de l'équipe de France de roller derby.
En fait, on a une charte, on a un code d'honneur, encore une fois, il y a des choses, et c'est même pas au sein du roller derby, c'est juste au sein du sport français, hein, on a des codes de conduite, et qu'en fait, il enfreint des règles, et qu'on dit, bah non, mais vas-y, tu joues quand même, et tu représentes ton pays. Quand j'ai appris ça, ça m'a fait mais vriller, vraiment. Ça a été le truc où je me suis dit, en fait, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Je vivais dans un espèce de sentiment complètement paradoxal, où en fait, je suis pas du tout d'accord avec cette situation, mais en même temps, je fais rien pour qu'elle change. Moi, personnellement, avec mes petites armes. Et puis, en fait, personnellement, avec mes petites armes, je peux quand même faire quelque chose. Donc, du coup, j'en ai parlé à la commission, Roller Derby, donc, qui s'occupe au sein de la fédération du Roller Derby. Et je raconte mon histoire. Je raconte ce qui m'est arrivé en disant que, moi, d'un point de vue éthique, je supporte pas de voir ça. Et du coup, commence le parcours. On est 6 ans après l'agression et je me réveille 2 mois trop tard parce qu'en fait, il y a prescription. Donc, je peux pas aller au pénal. Donc, ça veut dire que la seule chance pour que je me retrouve à être... c'est pas vengée, parce que c'est pas une question de vengeance, c'est à être reconnue dans le statut de ce qui m'est arrivé et à vouloir faire changer les choses. Et ben du coup, je... peut juste passer par la FFRS. Donc faut juste que j'ai confiance dans une institution qui, depuis le début, le défend.
Avec le soutien de la commission roller derby de la FFRS, Élise entame alors une procédure disciplinaire contre le joueur. Mais le problème, c'est que le règlement de la fédération n'est pas adapté pour le traitement des agressions sexuelles. Et lors d'une première audience, alors qu'elle est mal préparée, l'agresseur est relaxé. Élise a fait appel et la procédure est toujours en cours. Mais le combat de Élise et d'autres joueuses qui ont osé témoigner, la pression de la communauté derby et la médiatisation de cette histoire poussent le président de la FFRS à la démission. Première victoire. Aujourd'hui, la fédération a entamé un travail pour prendre en compte la parole des victimes d'agressions sexistes et agir. Un cabinet externe spécialisé, EGAE, a été mandaté pour traiter ces affaires. Les choses bougent et pour Élise, c'est déjà une première victoire.
L'accompagnement des victimes de violences sexuelles et sexistes, c'est un métier. Il faut aller voir des personnes qui puissent entendre ces choses-là, qui connaissent ce qui se passe en ce moment sur ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup de procès, il y a beaucoup de choses, et le droit n'est pas clair là-dessus. Et avoir des gens qui s'y connaissent et qui connaissent comment attaquer les agresseurs, comment, quelle pièce amener, ça vous protégera, ça vous soulagera. Parce qu'avoir le poids d'une procédure juridique à part entière sur ses épaules avec des choses qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne peut pas tout connaître, bah, c'est pas possible en fait, quoi. Et si vous ne connaissez pas des personnes qui sont formées à ça... Si vous n'avez pas envie de taper sur Google, eh ben, il y a une asso qui est très bien dans le sport, qui s'appelle le Comité Éthique et Sport, qui mène ce combat-là depuis 15 ans, on va dire. Après, il y a aussi le dopage et sur plein de choses, mais qui sont sur des problématiques spécialistes dans le sport. Et
problématiques de violences sexuelles et sexistes. Les copains, les personnes qui sont un peu engagées, mais pas forcément beaucoup, sur des problématiques parallèles, elles pensent parfois s'y connaître, mais en vrai, il y a plein de choses qu'elles loupent. Et c'est pas leur métier, en fait. Si vous avez votre cousin qui est avocat en droit immobilier, c'est pas la peine, quoi.
Cette histoire a permis à Élise de réfléchir à des pistes pour que le sport devienne pour toutes et pour tous un lieu d'épanouissement sans crainte des agressions sexuelles. Ben oui, on a le droit de croire aux utopies, non ?
Faudrait juste abaisser notre seuil d'intolérabilité, en fait, quoi. Plus on l'abaissera, plus tout sera safe. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on tolère que l'entraîneur mette une claque sur le cul à une gamine de 14 ans parce qu'elle a bien réussi son parcours, tu vois, il y a un... À quel moment on place le curseur de la violence sexuelle et de la violence sexiste, en fait, quoi. Mais dans le milieu du sport, on est quand même très désinhibé au niveau du corps parce que ça reste des machines, en fait. Donc, on s'en sert pour des performances et pas forcément pour plaire ou quoi que ce soit. Ton corps, il t'appartient pas vraiment. Il appartient... à ton sport, à ton entraîneur, à ton équipe. Enfin voilà, il y a plein de rapports comme ça et de choses où il faut éduquer notre petite génération d'entraîneurs et de dirigeants un peu vieillissantes. Donc ça, c'est un projet et c'est une de mes victoires personnelles de me dire je sais que je peux agir là-dessus. Et je sais que toute cette histoire, elle m'a amené une sorte de légitimité un peu peut-être pour permettre de m'engouffrer dans une porte et de faire changer les choses. Si c'est juste pour que moi, mon agresseur, il soit reconnu coupable et que dans 2 ans, le même genre de type fasse la même merde, ça sert à rien en fait. Ce qui est important, c'est que ça bouge d'une manière structurelle et institutionnelle, systémique, tout ça, tout ça.
Pour terminer cet entretien, j'ai voulu savoir quels conseils elle donnerait aux témoins, à ceux qui assistent parfois passifs à des comportements sexistes et des agressions.
Faut sûrement se dire que si ça vous a mis mal à l'aise, vous, c'est qu'il y a une des personnes, un des protagonistes de ce que vous avez vu, qui a dû être 1000 fois plus mal à l'aise que vous. À partir de là, il y a la possibilité d'en parler avec cette personne, ça dépend de votre degré de connaissance de cette personne, parce que ça peut être très violent aussi qu'on s'approprie l'histoire qui lui est arrivée sans lui donner la possibilité de s'exprimer, c'est-à-dire si vous allez dénoncer ça sans potentiellement avoir essayé de discuter ou lui avoir donné la possibilité à lui de le faire, ça peut être très dépossédant. Donc juste une petite phrase de... ça t'a pas dérangé ? Ou « Oh, c'était bizarre quand même, ça ». Ça peut être pas mal. Et si la situation, par contre, ne le permet absolument pas, hein, qu'on soit d'accord, parce qu'il y a des situations qui sont très violentes et vous ne pouvez pas arriver avec cette petite phrase-là, eh ben c'est pareil. Là, pour la FFRS, on a la possibilité d'aller signaler... donc c'est signalement ffrs@groupe.com.fr. Vous avez possibilité d'aller témoigner de ce qui s'est passé. Essayez de passer par toutes les voies légales, en fait, et rapprochez-vous d'une association. C'est pas dit que les voies légales marchent, encore une fois, si vous êtes témoin, mais déjà, vous aurez fait votre job, c'est-à-dire qu'à aucun moment, ça ne laissera la personne seule. Il faut identifier les personnes safe dans son entourage quand vous commencez une association ou quoi que ce soit. On les remarque. Généralement, c'est les personnes qui vont passer pour les relous, qui vont dire « je suis pas d'accord avec ça, oui, mais non », voilà, qui défendent des opinions. Non, mais c'est vrai, hein, dans le milieu du sport, c'est ça. C'est les personnes qui vont défendre des opinions un peu... on se dit « Oh, elles sont pas très drôles, oh, laisse passer ça, oh, elles sont un peu rigides. » Bah ouais, mais en même temps, à l'heure actuelle, c'est ces personnes-là qui vont pouvoir vous servir d'appui quand vous voyez des choses comme ça, quoi. Et surtout, si vous êtes un proche de quelqu'un qui a vécu ça, sachez que la notion de temporalité dans toutes ces procédures, elle est pas la même pour vous comme pour lui. C'est-à-dire que si vous... Alors, c'est pas du tout un reproche, hein, mais si vous prenez des nouvelles d'une personne... qui est en pleine procédure, qui est dans tout ce chamboulement-là, toutes les 2 semaines, sachez que pour elle, y a eu 25 fois où elle a fait des ups et 25 fois où elle a fait des downs, en fait. C'est bien de demander de nouvelles procédures et de tout ça, mais peut-être que vous tomberez le jour où elle n'a pas envie d'en parler. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas dans 3 jours. Mais ce qui est le plus dur pour les victimes, c'est de faire comme si rien ne s'était passé. C'est un moment où on est très très isolé et où on a l'impression d'être compris par personne. Et à part quelqu'un avec qui on vit tous les jours ou qui vous appelle tous les jours, bah c'est compliqué de se rendre compte de toutes les étapes par lesquelles on passe. Du coup, bah, soyez le plus soutenant possible, le plus présent possible. C'est vraiment la chose, sans être intrusif, mais je pense que c'est important. parce que c'est ça qui fait tenir aussi. Voilà.
Merci beaucoup à toi, Élise, d'avoir pris le temps de discuter avec moi, et merci encore pour ta confiance, et bravo, bravo, bravo pour ton courage, et à très vite, j'espère, pourquoi pas, autour d'une piste de roller derby. C'est la fin de ce bonus de Yes, produit à Marseille par Popcast et réalisé par Amida. Merci à Radio BAM qui nous accueille dans leur studio. Merci à toi de nous écouter et de nous soutenir. Tu peux toujours nous écrire sur les réseaux sociaux @yes_podcast ou même nous ensevelir sous une pluie d'étoiles sur iTunes. Et en attendant le prochain épisode, n'oublie pas, tu files comme sur des roulettes, personne ne t'arrêtera, t'es forte et tu nous inspires. Bref meuf, t'es une warrior.